Bonsoir Marie.
Voilà une classe qui se tient sage.
La démocratie, c'est pas le consensus, c'est le dissensus. Nous ne pouvons pas être tous d'accord.
Quand je vois ces gens, et on va encore accuser la police sur ce coup-là d'être violente.
Qui a la légitimité statutaire de dire « vous, vous êtes violent ».
Mais mon Dieu, il y a des jeunes enfants, mais sérieusement ?
Rien n'est caché. Ce qui se passe est maintenant révélé à la face du monde par des vidéos qui sont amplifiées.
Est-ce que c'est normal, ça ?
Arrêtez !
Ce qu'on peut appeler une police républicaine, c'est justement une police qui est au service du peuple et non pas au service de l'État.
Bonsoir Arnaud. David Dufresne, dans son film « Un pays qui se tient sage », prend le parti pris de montrer des images des manifestations des Gilets jaunes avec toute la violence, l'injustice et le désespoir qu'elles véhiculent. Ces vidéos sont commentées par des intellectuels et des manifestants qui tentent chacun à leur manière de mettre des mots sur les comportements des forces en présence. Parmi ces voix, Romain Huette, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sciences de la communication à l'université de Rennes 2 et vous avez publié aux Presses universitaires de France un ouvrage qui s'intitule « Le vertige de l'émeute ». Vous dites que l'émeute, la manifestation, est une façon de donner chair aux revendications. Vous insistez sur ce rapport au corps, comme si la violence nécessitait un ancrage concret.
Il y a clairement cette idée que la manifestation, et notamment en fait quand elle dépasse son cadre prévu, son cadre institutionnel, eh bien, elle est vécue comme une épreuve assez vivante et elle est extrêmement corporelle au sens déjà parce que vous marchez beaucoup, parce que votre corps il est atteint, parce que votre corps il est bousculé, il est aussi en solidarité avec d'autres corps, avec le corps des manifestants. Et donc il y a effectivement cette idée que c'est une épreuve vivante du politique au sens où contrairement peut-être à des marches peut-être plus classiques dans lesquelles en fait on a un rituel ou en tout cas des habitudes, ici il y a quelque chose qui est toujours un petit peu incertain et dans lequel il y a, me semble-t-il, une rencontre avec le pouvoir qu'on ne vit pas généralement, en tout cas on la vit tous les jours, mais elle ne nous est pas perceptible aussi facilement qu'elle l'est dans un moment d'émeute.
Peut-on esthétiser la violence sans finalement lui faire perdre son fondement? Pour le dire autrement, est-ce que la beauté de certains, par exemple, plans du film de David Dufresne, peuvent, de par leur qualité plastique, amoindrir le propos de ces gens qui sont en train de manifester?
Je pense que c'est un écueil qui est vraiment très important, effectivement, le fait d'esthétiser la violence. Et je crois qu'il faut arriver à rendre compte d'un côté qu'il y a quelque chose quand même d'esthétique. Il y a quelque chose qui advient immédiatement à la perception, qui fait vaciller le monde très momentanément. Il y a des couleurs, il y a des sons. Donc il y a quelque chose d'un peu esthétique et qui d'ailleurs peut susciter un certain attachement à ce moment-là, ou en tout cas les gens ne partent pas, ils veulent rester, il y a quelque chose comme ça. Mais et en même temps, évidemment, il ne faut surtout pas enlever la charge politique et pas trop romantiser non plus ce moment-là, parce que si on le romantise, on ne peut pas commencer à exalter des formes de violence de très faible intensité, mais quand même des formes de violence. Et donc la question, évidemment, c'est qu'est-ce que ça traduit politiquement de voir des gens qui ont un désir de monde qui va jusqu'à s'inscrire dans le corps et qui se manifeste avec parfois un peu d'étonnement, un peu de brutalité, un désir en tout cas qui n'est pas canalisé, quoi. Et ce désir de monde qui n'est pas canalisé, il interpelle immédiatement le politique. Et d'ailleurs, on voit bien que le politique ne sait pas trop quoi en faire. Il ne sait pas trop comment, en fait, régler autrement que par la force, force qui est bien sûr, évidemment, beaucoup plus puissante.
Ce qui est aussi étonnant, c'est que ceux qui esthétisent ne sont pas souvent ceux qui manifestent. Est-ce que ceux qui manifestent n'ont pas l'impression qu'on leur vole quelque chose, finalement, quand on esthétise leur mouvement ?
Je pense qu'il y a clairement une expérience affectuelle importante dans le moment de l'émeute. Et parmi cette expérience-là, il y a quelque chose de l'ordre de la joie, quoi. Qui se mélange avec de la colère, hein, qui se mélange avec... on a un mélange d'affects qui sont parfois très très contradictoires. Mais cette charge affectuelle, me semble-t-il, elle est vraiment vécue, elle est très forte dans ceux qui participent. Maintenant, effectivement, si on se limite à cette dimension-là, eh bien évidemment, le problème, c'est qu'on ne parle pas que dedans, il y a des vies qui s'abîment, quoi. Enfin, il y a des vies qui s'engagent, qui s'exposent, qui se rendent visibles, au sens où on prend des risques quand on fait ce genre de manifestation. On s'expose bien sûr à la blessure, mais on s'expose aussi à des poursuites judiciaires, etc. Et qui en même temps voilà, nous disent encore une fois quelque chose de qu'est-ce qui fait que dorénavant on a un certain nombre de personnes qui ont cette obstination, et les gilets jaunes de ce point de vue-là ont été inédits, hein, cette obstination à essayer de tenir la rue, à essayer d'avancer malgré tout, alors même qu'on voit bien que le rapport est extrêmement asymétrique, à continuer à poursuivre dans cette voie où on a besoin, où les gens ont besoin en fait de sentir l'ambiance collective, l'ambiance d'une foule, d'une foule qui va au contact, qui sait qu'elle va recevoir des coups, hein, qui sait que ça va être assez, que ça va être assez compliqué, mais qui s'obstine. Cette obstination-là, on peut la juger comme étant tout à fait désespérée. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle dit énormément de choses, encore une fois, sur la critique, la dénonciation, la façon dont certains passent de l'accablement au soulèvement et refusent le présent. Et ce qu'il nous faut comprendre, c'est quoi ce refus du présent qui est en train de s'exprimer aujourd'hui.
Dans votre ouvrage « Vertige de l'émeute », vous dites que l'émeute est une expérience de la défaite. Est-ce que faire corps dans la rue est un moyen de reprendre la parole? En vous disant ça, je repense à une phrase de Éric de Luca qui parlait des sans-voix, mais qui parlait aussi des sans-écoute.
Il me semble qu'aujourd'hui, une des crises politiques qu'on rencontre, c'est qu'il y a bon nombre d'analystes très très lucides sur notre situation, que ce soit sur la situation écologique, que ce soit sur la façon, par exemple, dont les Gilets jaunes ont voulu raconter, rendre visible ce qu'ils vivaient au quotidien et qu'on a eu tendance, évidemment, à mépriser. Et que fait le pouvoir, en fait, vis-à-vis de tout ce qui lui est opposé, assez clairement, en fait, en réalité, quoi. Il y a une espèce de blocage, une espèce de non-écoute radicale qui, évidemment, en fait, ne peut qu'entraîner une frustration encore plus importante, etc. Et la question, c'est comment on arrive à se faire entendre par le pouvoir, quoi. Comment on accède, finalement, d'une certaine manière, à un espace d'audition dans lequel, concrètement, ce que les Gilets jaunes ont exprimé, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça nous dit encore. Et je pense que le politique a énormément de mal à être, justement, dans l'écoute de cette parole-là, parce que peut-être que c'est une parole qui la dément profondément, et qui dément, évidemment, fondamentalement, l'orientation générale qu'ils veulent donner à notre société et à notre vie intime.
Merci beaucoup, Romain Huette.
Et merci à vous, Marie Sorbier.